Bonjour Hélène.
Aujourd'hui, Christine, on dédie notre entrevue à une personne qui fait partie du monde artistique, dont la célébrité a rejailli sur tout Valenciennes et qui s'appelait Joséphine Duchesnois, appelée aussi la Duchesnois, comme un peu plus tard, on dira la Goulue.
Donc, elle est née le 5 juin 1677 et elle ne s'appelait pas Joséphine Duchesnois, on va le voir après. Elle était née Catherine Raffin à Saint-Saul. C'était plus un faubourg de Valenciennes qu'une une commune à part entière. Elle venait d'une famille très modeste, au lieu dit le Marais. Dès que son père Jean-Jacques, qui était garçon de chevaux, donc c'était pas mirobolant, sa mère Françoise Milot s'occupait des enfants, hein, puisqu'elle a eu une sœur. Donc, quelques années après sa naissance, les parents de Catherine vont déménager pour venir tenir un estaminet à l'enseigne Le Marquis. Donc, c'était sur le chemin de Valenciennes, mais Le Marquis, il y a toujours une rue du Marquis à Saint-Solve, et on peut se demander... Est-ce qu'il y a eu un marquis là? Bon, non, c'était un estaminet qui était tenu à un moment par les parents de la petite Catherine. Voilà. Elle ne va pas beaucoup à l'école, Catherine. Hein. Bon, à l'époque, c'est les filles, cette époque, on les envoyait facilement à l'école, elles avaient assez à faire à la maison, à donner des coups de main. Donc, elle n'a pas été à l'école, mais son institutrice, qui s'appelait Madame Coquelin, remarque qu'elle est intelligente. Et quand elle peut, elle la fait venir et elle va lui apprendre à lire, à compter, à bien parler, parce que c'était pas le cas à l'époque, hein, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui le patois, et ça lui sera évidemment très utile dans sa vie. Voilà la révolution.
Sire. Sire.
Qu'y a-t-il ?
Sire, les Parisiens ont pris la Bastille.
Pris la Bastille ? Pourquoi ? C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Et en 1793, tu sais ce qui s'est passé, c'est le siège des Autrichiens.
Oui. Hein?
Donc en 1793, en pleine révolution, elle est placée comme servante dans une ferme près de Mons. Elle revient à Saint-Saulve après la tourmente. Elle va alors se rendre à Paris, chez sa sœur Augustine, qui travaille dans la capitale comme lingère chez le comte de Provence, qui sera le futur Louis XVIII. Donc la jeune fille, eh bien, la vie parisienne, c'est vraiment très différent de Saint-Saulve. La jeune fille va assister à des représentations, des pièces de théâtre, Pierre Corneille, Racine. Donc elle va vraiment... Et aussi, il y a une actrice qui triomphe à l'époque et qui s'appelle La Raucourt. Donc cette petite Catherine va vraiment se dire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je ferai plus tard.
Elle trouve sa voie en allant au spectacle.
Ça n'est pas gagné, bien sûr, c'est une révélation, mais elle revient à Valenciennes, à Saint-Saulve, et elle va avoir la chance de monter sur les planches. C'est des petites pièces, des petits spectacles qu'on donne pour aider les enfants malheureux, les familles troublées. Donc mais elle est contente, elle monte quand même sur les planches. Donc après la Révolution, bon, le calme est revenu, Catherine va repartir à Paris, toujours chez sa sœur. Et donc elle va devenir l'élève de l'artiste qui n'est plus connu aujourd'hui, qui s'appelle Le Gouve, et qui a été pour elle un guide dévoué. Elle s'est toujours beaucoup occupée d'elle. Donc elle a en plus la chance d'être remarquée par qui ? Par Joséphine de Beauharnais. Et donc, elle s'appelle Catherine, mais puisque Joséphine s'intéresse à elle, elle va prendre son nom de scène et elle va changer de prénom. Donc elle décide de s'appeler Joséphine, et Duchesnois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais Joséphine, c'est par rapport à Joséphine de Beauharnais. Elle va débuter à la Comédie Française, ce qui n'est pas rien, hein, donc en 1802, que Napoléon y est là, hein, tout près, hein, et dans le rôle de Phèdre, ce sera toujours son succès.
À paix, au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis. Je rougis. Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps et transir et brûler.
Même la dernière pièce qu'elle jouera, ce sera Phèdre. Donc, entre deux représentations de Phèdre, évidemment, elle ne va pas jouer que ça. Elle va jouer d'autres pièces. Elle va jouer beaucoup de classiques, du Racine, comme Iphigénie, Roxane et tout ça. Hein. Donc, elle va triompher, vraiment, en jouant Hermione dans Andromaque, toujours de Racine, en compagnie de son compatriote qui est de Poix du Nord, donc ici pas loin. Mais la comédienne, tu sais, c'est un peu un nœud de vipère dans ces trucs-là. On forme un groupe de comédiens, on s'imagine que tout le monde s'entend bien, et puis c'est pas vrai. Oui. Hein, on se mange la laine sur le dos. Donc, la nouvelle comédienne ne va pas très bien s'entendre avec Mademoiselle Marguerite Wemmer, qui est son nom d'actrice, c'est Mademoiselle Georges, qui élève de Madame Raucourt, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui débute à son tour à la Comédie-Française. Donc, ça va toujours être la guéguerre entre les deux. Donc, on dit toujours qu'elle est plus belle que la duchénoise. Et surtout, elle a le soutien de Napoléon. Et donc, ces deux vedettes veulent jouer les mêmes rôles. Donc, c'est le début d'une grosse rivalité qui va durer des années. Mais Joséphine va faire face. Hein. Elle est décidée. Donc, elle est reçue, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, en 1804, je crois qu'elle a même son buste là-bas, à la Comédie Française, sociétaire de la Comédie Française, toujours soutenue par Joséphine de Beauharnais et de Chaptal. Je ne sais pas si tu connais Chaptal. Chaptal, c'était le ministre de l'Instruction publique. Ah, on dirait maintenant de l'éducation nationale. Donc, la rivalité entre les artistes est tenace, mais en 1808, quel bonheur pour Joséphine, Mademoiselle Georges va quitter le théâtre français et elle s'en va en Russie avec un danseur de l'opéra. Ouf, Mademoiselle Duchesnois est tranquille, hein. C'est la seule maîtresse de la scène. Mais on est en 1808. Et Napoléon, il va décider d'emmener avec lui toute la troupe de la Comédie Française en Prusse orientale parce qu'il y a une entrevue qui se prépare en Rhénanie et l'empereur l'empereur des Français reçoit l'empereur de Russie et il emmène toute sa troupe pour pouvoir un peu éblouir l'empereur de Russie. Et aussi les faire jouer. Donc pour Catherine, c'est merveilleux. Elle va pouvoir montrer tout son talent et c'est de là que part vraiment, parce que Napoléon en même temps, hein, il est là aussi, pour elle, c'est l'apogée. Hein. Donc elle revient à Paris, après la Russie bien sûr, parce que ça, c'est un voyage temporaire. Et les années qui vont suivre sur la scène de la Comédie Française, eh bien c'est... On va voir, on se pique d'aller voir la Duchesnois, c'est vraiment la comédienne du temps.
Qu'il faut voir.
Voilà, qu'il faut voir. Donc elle continue à jouer Phèdre, bien sûr, mais elle joue beaucoup d'autres pièces. Hein, par exemple, elle joue beaucoup de Racine. Mais Joséphine, elle est bien gentille comme ça. Mais elle a un caractère très difficile. Elle est tyrannique vis-à-vis de ses collègues, enfin de ses amis comédiens, et même de tout ce qui tourne autour, hein, tous ceux qui organisent et tout ça. Elle a vraiment un caractère absolument tyrannique. Mais elle a aussi une vie sentimentale. Elle est assez belle. Elle a été mère de deux fils et d'une fille qui ne sont pas du même père. Ils vont faire beaucoup. Les garçons vont surtout faire carrière dans l'armée. Et la fille, elle va se marier avec quelqu'un de bien. Hein. Quelqu'un va lui donner une fille ne travaille pas, mais il faut qu'elle ait un mari à sa hauteur. Elle s'appelait Rosemonde. Et c'est la seule qui a été reconnue par son père. Il s'appelait Charles Gélinet, un mois après sa naissance. Les deux garçons n'ont jamais été reconnus par leur père respectif. Donc, en 1807, Joséphine va obtenir un congé de la Comédie française, parce qu'elle joue, elle joue, elle joue, mais elle ne s'en va jamais, et elle fait jamais de... elle n'a jamais de repos, si on veut. Donc, sa destination, c'est le Nord. C'est le Nord natal, c'est Valenciennes. D'abord, elle vient à Lille, où elle va jouer au théâtre de la ville, puis à Valenciennes, avec une troupe d'artistes lillois. Et là, elle va jouer le théâtre de ses débuts, et entre autres Phèdre. On vient voir Phèdre, souvent, c'est pas...
C'est au théâtre de Valenciennes.
Ou alors, il est tout neuf. Hein. Alors, on va faire son buste. Donc, elle a un buste qui est à la conservatoire. Donc, on va lancer une souscription, parce qu'évidemment, ça coûte cher. Et ça va être confié au sculpteur valenciennois qu'on connaît peut-être moins bien, qui s'appelle Cadet de Beaupré. Donc, Mademoiselle Duchesnois reviendra à Valenciennes. Bon, entre-temps, elle retourne à Paris, mais elle va revenir à Valenciennes régulièrement, par exemple en 1812, où elle va donner une dizaine de représentations en 1824, 1830. Là, on ne parle plus de Napoléon, mais elle est lancée.
Et est-ce qu'on sait si, entre-temps, avec cet agenda artistique bien rempli, elle a toujours lien avec sa famille,
ses parents ? Sa famille, oui. Très peu. En fait, on en parle très peu. On ne sait même pas s'ils sont encore vivants. D'accord. À cette époque. Peut-être qu'elle n'a pas très envie qu'on en parle non plus. Elle va jouer Phèdre encore et Athalie. Mais elle tombe malade. Son état de santé va commencer à se dégrader et elle doit s'absenter durant des périodes de plus ou moins longues. On pense qu'elle a eu le cancer. Elle songe à quitter la Comédie française parce que c'est quand même un métier très fatigant. Elle envoie plusieurs demandes d'émissions, mais qui ne lui sont pas accordées. Donc elle est obligée de continuer à travailler. Son congé définitif, on accepte quand même qu'elle parte qu'en 1829. Donc elle est déjà bien malade. Elle a quand même une pension, je ne saurais pas dire à quoi ça correspond aujourd'hui, mais une pension de 3000 francs par an. Et puis, elle va, malgré tout, elle a encore le métier qui lui colle à la peau, donc elle va essayer de se produire en Belgique. Elle n'est plus vraiment la grande parisienne, si tu veux, mais elle veut quand même continuer à jouer un petit peu. Donc, en 1830, elle est bien malade. Elle ne jouera plus que... pour des fêtes de bienfaisance. Donc, elle va faire ses adieux au théâtre en 1833. Et pour ses adieux, qu'est-ce qu'elle va donner ? Eh bien, elle va donner Phèdre. Ça a dû même être assez émouvant, je pense. Voilà, elle meurt le 8 janvier 1835. Ses enfants sont là, son exécuteur testamentaire, l'archevêque de Paris, qui va l'assister, lui, jusqu'à ses derniers moments. Donc, l'office funéraire est célébré dans l'église Notre-Dame de Lorette. Et elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise. Il y a des nombreux artistes qui vont l'accompagner, des artistes nordistes, Abel de Pujol, Henri Lemaire, et beaucoup de députés du Nord, enfin toute la classe politique, et bien sûr une délégation de la Comédie française. Donc en 1937, le sculpteur valenciennois Henri Lemaire va réaliser un bas-relief qui s'appelle « La tragédie en pleurs » et qui est posé sur son tombeau. La municipalité de Saint-Saulve va faire réaliser par Léon Fagel, qui a un prix de Rome, un monument inauguré en 1895, mais il n'y a pas de chance, ce malheureux buste, parce qu'il va être enlevé par les Allemands en 1915. Donc on va décider d'en faire un autre, après la guerre, par Alphonse Terroir. Alphonse Terroir qui était de Marly, lui. Premier Grand Prix de Rome, et qui sera inauguré en 1935. Mais à son tour, il sera enlevé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis, bah, il n'y a plus que le socle.
Eh bien, merci pour ce saut à pieds joints dans le 18e siècle et dans le monde du théâtre. On se dit à bientôt.
À bientôt.
Au revoir, Christine.
Quand tu veux.
Merci et bonne année.
Et bonne année à tout le monde, hein.